Ne vous êtes-vous jamais demandé à quoi ressemblaient les paysages du lointain passé de la Terre ? On a tous rêvé un jour de remonter le temps pour découvrir les mondes disparus du passé géologique de notre planète. C'est à ce type de voyage que nous invitait Conan Doyle dans Le Monde perdu, un voyage qui nous plongeait au fin fond de l'Amazonie à la rencontre de dinosaures. En effet, la première image qui vient à l'esprit quand on évoque des mondes disparus est bien celle des dinosaures. Il faut admettre que la vie d'alors était bien différente. Au temps des dinosaures, et je dis bien au temps au pluriel, parce que leur histoire s'étend sur environ 180 millions d'années. Notre histoire humaine d'Homo sapiens, c'est seulement 300 000 ans. Et même si on remonte aux Australopithèques, à Lucie par exemple, c'est 3,5 millions d'années seulement, si je puis dire. Pour une fois, je vous propose de sortir du sentier battu du Crétacé supérieur avec les tyrannosaures, les tricératops, les vélociraptors. Et on va regarder au milieu de l'histoire des dinosaures, c'est-à-dire au Jurassique, à une période qui remonte à environ 150 millions d'années. Et je vous rappelle que les dinosaures allaient s'éteindre il y a environ 66 millions d'années. Donc on est bien avant. Les dinosaures du moment étaient des stégosaures, qui sont des dinosaures qui ont des grosses plaques sur le dos. Il y a des gros herbivores aussi, comme les brachiosaures et les diplodocus. On pouvait aussi croiser des allosaures, une sorte de petit T-Rex du moment. Quant à la flore, on y rencontrait des pins, des araucarias, des ifs, des ginkgos, des cycas, des fougères aussi, et puis également des bénétitales, qui est un groupe de plantes aujourd'hui disparues. Il ne faut pas oublier qu'il faisait plutôt chaud, il n'y avait pas de glace au pôle, ainsi le Jura de l'époque accueillait des lagunes tropicales. On y a trouvé des roches qui correspondent à des bouts très très fines qui se sont déposées dans ces lagunes, et ont enregistré le décor. On peut y trouver par exemple des traces de gouttes de pluie. Donc on savait qu'il pleuvait, ce qui n'est pas une surprise. On trouve des traces de pattes de tortue. On voit la tortue qui dérape sur la plage et qui laisse des empreintes. Donc on a des enregistrements extrêmement fins. Autour de ces lagunes, on avait des forêts luxuriantes. Il y avait des dinosaures qui circulaient là. Des plages donc, on a même trouvé un crocodile nain qui passait aussi par là. On a trouvé des poissons qui sont variés, qui vont du requin à des petits poissons de récif. On a vu des méduses, des crustacés, enfin on a trouvé tout un monde dans ces lagunes tropicales qui étaient à la place du Jura d'aujourd'hui. Ce panorama jurassique fait un peu rêver, puisqu'on a un lagon polynésien à la place du Buget, au sud du Jura. Les faunes et les flores étaient différentes. On a des paysages un peu inattendus à ces endroits, d'accord, mais vous avez remarqué que je m'appuie sur des analogies avec notre planète d'aujourd'hui, donc c'est pas si déstabilisant, on a des équivalents un petit peu actuels. Donc maintenant, posez-moi la question, est-ce qu'il y a des paléo-environnements totalement différents, sans analogie actuelle possible, qui ont existé ? La réponse, très courte, est oui. Une réponse plus élaborée, et j'espère que vous continuerez de m'écouter, et en voici quelques illustrations. Je vais commencer par des océans sans oxygène. On va faire un gigantesque saut dans le passé, et on va visiter la Terre il y a environ 2500 millions d'années. La vie y est alors uniquement unicellulaire, et uniquement marine. L'atmosphère a une composition un petit peu bizarre, on a du gaz carbonique, de la vapeur d'eau, du méthane. Il n'y a pas d'oxygène libre, l'air est assez irrespirable, en tout cas pour nous. Le ciel est rose-orangé, c'est plutôt joli. Dans les zones peu profondes d'un océan marron, prolifèrent des êtres unicellulaires coloniaux qui forment des petits coussins, des sortes de petits piliers, et qu'on appelle des stromatolites. Ces stromatolites ont pu former des accumulations considérables, allant en épaisseur jusqu'au kilomètre. Cette forme de vie a traversé les milliards d'années, puisque l'on peut encore observer des stromatolites bien vivantes, à Shark Bay, en Australie par exemple. Ça nous permet de les regarder de près. Ces structures résultent d'un empilement de générations d'êtres unicellulaires, qu'on appelle des cyanobactéries, qui vont s'agglutiner en colonies. Le métabolisme rudimentaire de ces petits organismes déteste l'oxygène, qui est un poison, et les stromatolites rejettent l'oxygène. On aperçoit d'ailleurs des bulles qui s'échappent, et donc on a une forme de vie qu'on peut qualifier d'anaérobie, qui se passe de l'oxygène. À l'époque, l'oxygène rejeté par les stromatolites s'est ainsi accumulé pendant des centaines de millions d'années dans l'atmosphère. Ces stromatolites ont aussi séquestré du carbone, c'est-à-dire évité à l'oxygène de se recombiner en CO2, en dioxyde de carbone. Elles ont donc contribué à changer drastiquement la composition de l'atmosphère. Et donc, dans ces temps reculés, la vie a contribué à une transformation majeure du visage de la Terre. Évoquons maintenant les premiers pas de la vie sur les continents. Sortons la tête de l'eau vers moins 400 millions d'années en Écosse. Qu'est-ce qu'on voit ? Imaginez, vous sortez la tête de l'eau, qu'est-ce que vous voyez ? Un paysage tout plat. Ce sont d'immenses plaines ponctuées de vastes cours d'eau et de marécages. Il fait plutôt chaud, il fait humide, il n'y a pas un seul arbre à l'horizon. Ces arbres n'existent pas encore. Nous sommes sur un continent qu'on appelle le continent des vieux grès rouges, qui couvre le nord de l'Angleterre, la mer du Nord et la Scandinavie. C'est le tout début, c'est l'aube de l'aventure continentale de la vie qui commence à s'aventurer timidement hors des mers à cette époque. Les premiers végétaux vasculaires pointent leurs petites tiges alors qu'auparavant, seuls des lichens couvraient les rochers. Ces végétaux s'appellent des rignales et elles tirent leur nom d'une localité, d'un petit village en Écosse qui s'appelle Rigny. On a nommé ces plantes d'après le nom de ce village. Les rignales sont de petites plantes vertes centimétriques qui ont une tige qui va ramper sur le sol en reliant différents plans entre eux. Et détail important, ces plantes n'ont pas de racines, elles vivent en fait posées sur le sol. Quand on regarde vers le haut, leur tige ronde assez fine va se ramifier en direction du haut, chaque brin portant à son sommet un petit renflement. Sur ce continent des vieux grès rouges, on va aussi trouver des cyanobactéries, des champignons filamenteux. La faune compte déjà des vers nématodes, et une assez belle diversité de petits arthropodes, c'est-à-dire des acariens, des mille-pattes, des collemboles, et même quelques crustacés. Il n'y a pas de gros animaux aux alentours, en tout cas pas sur les continents, et donc les petits pouvaient être assez tranquilles. Quoique, on sait qu'il y avait déjà certaines araignées, certains arachnides, qui étaient carnivores, et que des nématodes parasitaient les plantes. Autre saut dans le temps, nous allons nous retrouver au Carbonifère avec des prairies animales. On continue à palmer à travers les temps géologiques, et là on va retourner en mer, en Amérique du Nord, vers moins 340 millions d'années. On a une immense plateforme épicontinentale, donc une mer peu profonde qui entoure le continent, qui s'étale à l'emplacement du centre des États-Unis actuels. C'est une mer chaude et peu profonde. Le fond de la mer est couvert de fleurs richement colorées. Des tiges d'une vingtaine de centimètres plantent leurs racines dans la boue calcaire. Une corolle se déploie dans le courant au sommet de la tige et sur des dizaines de kilomètres, des myriades de ces fleurs peuplent le fond. Mais que viendraient faire des fleurs dans cette galère ? Primo, il n'y a pas de fleurs qui s'épanouissent au fond de la mer. Deuxio, les plantes à fleurs feront leur apparition pas loin de 200 millions d'années plus tard. Conclusion imparable, ce ne sont pas des fleurs. Ce sont des crinoïdes, de lointains cousins de nos étoiles de mer. Des animaux qui évoquent des fleurs par leur allure générale et leur posture. Leur corolle est en réalité constituée de bras finement ramifiés que l'animal déploie dans le courant. Alors on sait que les crinoïdes étaient vivement colorés, car leurs représentants actuels, des tropiques ou des grands fonds, qui existent encore aujourd'hui, sont vivement colorés. Et on parle pour le Carbonifère de prairies à crinoïdes. On en comptait à cette époque des milliards de spécimens. Et sur la totalité de l'épisode dont je parle, l'estimation porte sur 1 000 000 000 000 d'individus, ce qui correspond à une densité de 10 individus au mètre carré à un instant T. Maintenant, je voudrais vous parler de curieux récifs. L'image que l'on a des récifs est celle des récifs coralliens des mers tropicales. Les récifs coralliens existent depuis très longtemps. Ils ont évolué, mais toujours en abritant une très riche diversité de coraux et une encore plus riche diversité d'espèces qui viennent trouver refuge et nourriture dans le récif. On sait que, par exemple, dans les mers actuelles, les récifs abritent 30% des espèces marines. Mais savez-vous que d'autres animaux, qui ne sont pas des coraux, ont été aussi des constructeurs de récifs ? Et parmi eux, les rudistes. Mais quoi les rudistes? Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de rudistes. Les rudistes sont des mollusques avec deux valves. Des bivalves donc, comme les huîtres ou comme les moules. Les plus anciens rudistes remontent à la fin du Jurassique, vers moins 140 millions d'années. Mais à la fin du Crétacé, il y a un groupe de rudistes qui va évoluer en adoptant une forme un peu étrange, et ces rudistes s'appellent les hippurites. Les hippurites sont des longs tubes de 20 à 50 cm qui sont striés longitudinalement, effilés à la base et surmontés par un couvercle plat. Un peu bizarre. Le long tube est l'équivalent de la valve creuse d'une huître et le couvercle est l'équivalent de la valve plate. C'est un peu comme chez une huître, le couvercle est articulé et se soulève pour laisser entrer l'eau de mer et le plancton qu'elle renferme. Et les hippurites vivent dressés sur le fond. Surtout, les hippurites sont grégaires. Ça veut dire qu'ils s'associent en fagots, des sortes de gerbes plantées dans le substrat, ce substrat étant d'ailleurs le plus souvent constitué d'autres hippurites. Donc les individus pionniers s'installent, se regroupent, puis d'autres s'installent sur les premiers ou à côté, ça finit par s'empiler, et puis à la fin, ça construit un récif très original qui pouvait atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut, et le tout forme finalement cet édifice qui est construit, qui est plein d'anfractuosités, et donc c'est bien pour que d'autres espèces viennent s'y abriter, et puis pour des mollusques, c'est quand même pas mal d'arriver à construire ce genre de récif. Et puis ces animaux ont disparu à la fin du Crétacé, au moment de la crise, qui a mis fin également au règne des ammonites. Ultime paysage que je vous propose, en nous rapprochant de nous, paysage de fonte de glace, fonte des glaciers. Je vous propose un bond de 65 millions d'années vers le présent. Une époque glaciaire se termine, la planète se réchauffe, les glaces fondent. Nous sommes au pied des Alpes, il y a environ 15 000 ans. Des quantités considérables d'eau s'évacuent de l'énorme calotte qui couvrait toute la chaîne alpine et qui s'étendait jusqu'à Lyon, Munich, Turin ou Vienne. Tous les paysages vont se trouver bouleversés. Des fleuves immenses se forment, de quoi faire passer le Rhône ou l'Isère pour des ruisseaux. Ils emportent tout dans leur flot agité, et ils emportent notamment des cailloux arrachés aux Alpes par les glaciers. Ils brisent ces cailloux, ils les patinent, ils les roulent, et les plus durs vont se retrouver aujourd'hui dans les terrains du Dauphiné. Bien que ce soit des cailloux qui soient très arrondis, ils sont très durs, et les hommes les ont utilisés pour édifier des murs, des soubassements de leurs maisons ou paver des rues. Et en région lyonnaise, on les appelle poétiquement des têtes de chat. Il faut imaginer une vaste plaine d'épandage, parcourue de chenaux tumultueux qui divaguent dans tous les sens. Au cœur de la chaîne, au cœur de la chaîne alpine, dans les vallées en auge creusées par la glace, subsistent de grands lacs. Certains sont encore là, en Bavière, en Suisse, en France. Nos ancêtres ont contemplé ces paysages, ces systèmes faits de glace, de roches et d'eau. Maintenant, que seront les paysages dans un lointain futur? Il ne fait aucun doute que certains seront originaux, novateurs en quelque sorte, sans aucun équivalent avec ceux d'aujourd'hui, et les hommes ne seront plus là pour les contempler. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David. Réalisation, Charlotte Roux.